France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Bon, bah, c'est un échec, hein. Il n'y a pas 36 manières de dire les choses. Ce conclave sur les retraites qui a débordé de son calendrier se termine un peu en autre boudin. François Bayrou a rencontré les participants aujourd'hui. Il dit aussi qu'il reste ce qu'il appelle une voie de passage. On verra ce que ça peut vouloir dire, une voie de passage parlementaire ou pas. Il cherche un chemin, en tout cas le Premier ministre. Mais au bout du compte, ce conclave qui a permis au Premier ministre d'éviter la censure il y a 4 mois lui explose un peu entre les jambes. Et d'ailleurs, le PS a immédiatement annoncé le dépôt d'une motion de censure. On sait déjà que le RN n'est pas tout à fait chaud pour s'y atteler. Le Rassemblement National attend plutôt le budget pour éventuellement sortir la censure. Quoi qu'il en soit, il semble que le bail de François Bayrou ne tienne qu'à un fil. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que, en effet, le gouvernement Bayrou ne passera pas l'été ? Qui y a intérêt ? Et vous allez nous dire, vous d'abord, si vous êtes prêt pour un nouveau psychodrame tel qu'on l'a vécu déjà deux fois, ou s'il y a moyen de trouver un volontaire qui prendra la suite. Est-ce que la situation internationale joue dans le choix de changer ou pas de Premier ministre ? Est-ce qu'on a besoin d'une France déstabilisée ? Est-ce que la voix du président, au moment, par exemple, du sommet de l'OTAN en ce moment, cesse de porter quand son gouvernement a implosé. Après, objectivement, quel est le bilan de François Bayrou en 6 mois ? Aurait-il eu les moyens de faire mieux que quelques textes, pardon, qu'on a peut-être un peu oublié d'ailleurs, hein, sur les narcotrafics, par exemple, celui sur la fin de vie, évidemment, mais qui était déjà dans les tuyaux avant lui. François Bayrou est aussi un premier ministre très impopulaire. Les 77% qui répondent non à la question François Bayrou est-il un bon ministre ? Ça ne doit pas être très agréable. D'où cette question que nous poserons aussi peut-être après tout. Est-ce que François Bayrou veut rester ? C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Gérard, vous êtes dans le Val d'Oise et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir, j'entends dire que c'est un échec ce conclave. On voit qu'il n'y aurait pas de gagnants, que des perdants. Non, non, non. Il y a bien des gagnants. Il y a le MEDEF et la droite qui ont gagné, qui sont pourtant minoritaire dans ce pays depuis la dissolution de l'Assemblée il y a un an, alors que la gauche est majoritaire depuis cette date. Cherchons l'erreur quant au Rassemblement National, il observe, et n'a, comme on dit chez moi, que de la gueule, puisqu'il menace, mais il n'a pas le courage de passer à l'acte de la censure.
Merci Gérard pour ce démarrage, vous soulevez déjà, vous ouvrez quelques portes qui nous permettent d'entamer cette discussion, pour discuter ensemble jusqu'à 20h dans le téléphone sonne, il y a Françoise Fressos, bonsoir Françoise.
Bonsoir.
Éditorialiste au Monde, il y a Frédéric Dabi, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général de l'IFOP, et puis Julien Nenny, bonsoir Julien.
Bonsoir.
Du service politique de France Inter. Ben, je vais vous poser la question à tous, est-ce qu'il n'y a que des perdants ? Est-ce qu'on sait qui a gagné, qui a perdu, Françoise Fressos, là-dedans ou pas, à la fin ?
Là, je pense que c'est, pour le moment, c'est trop tôt, parce que il n'y a pas encore rupture officielle, puisqu'ils se sont vus à Matignon aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que au fond, la démarche de François Bayrou, c'était de se dire il y a peut-être un compromis possible, et c'était au moment où il était en train de discuter avec le Parti Socialiste, essayer d'arracher une partie du Parti Socialiste pour éviter ce qui s'était passé sous Barnier, c'est-à-dire une motion de censure à la fois gauche, totale gauche, et Rassemblement National. Donc il y a eu une sorte de lune de miel avec les socialistes, et il s'est dit peut-être que je vais pouvoir les détacher, et peut-être que je peux réouvrir la discussion autour de la réforme des retraites. Là, c'est un échec. On voit d'ailleurs que le PS immédiatement dit on va faire dépôt d'une motion de censure. Je pense que plusieurs éléments ont joué. Il y a à la fois le résultat du congrès du Parti Socialiste où il y a eu sans doute l'espoir chez François Bayrou que ce qu'on appelle l'aile réformiste remporte le morceau et se détache un peu de LFI. Ça n'a pas été le cas. Par ailleurs, il y a eu, je pense qu'il a essayé de tendre la main à la CFDT qui avait aussi éprouvé le besoin de redevenir un syndicat réformiste, c'est-à-dire de quitter cette unité syndicale qui a eu pendant la réforme des retraites pour dire ben nous on a peut-être une voie réformiste, on veut peser dans la période, mais les concessions n'ont pas été suffisantes et donc il y a eu une rupture. Mais je pense que le paysage néanmoins bouge, c'est pas complètement figé et on y reviendra peut-être plus tard.
Est-ce que c'est aussi, Frédéric Dabi, un échec au fond pour les partenaires sociaux qui avaient l'occasion là, de revenir sur le début de la scène et de dire si vous, les politiques, vous n'arrivez pas à nous faire une loi qui convienne, nous on va pouvoir le faire, bah, résultat non en fait.
Oui, résultat non, c'est vrai que depuis cette assemblée introuvable, hein, j'entends ce qui a été dit par votre auditeur, la gauche n'a pas gagné le 7 juillet, elle a eu un peu plus de députés que les autres, elle a 80 sièges de la majorité absolue, il ne faut pas l'oublier, et c'est vrai que ça montre hein, cette éclipse du politique, que ce soit le politique de manière générale, les partenaires sociaux n'arrivent plus à résoudre les problèmes. Devant nous, on a une opinion publique désabusée qui reste toujours contre vent debout la réforme Borne à 64 ans, deux tiers des Français, trois quarts des personnes actives, et au-delà de ça, puisque faut pas oublier qu'en 2010, on a trouvé une majorité de Français favorable au passage de 60 à 62 ans. Au-delà de ça, il y a un vrai désarroi sur la question des retraites de la part des Français, puisque les Français voient qu'on leur impose à chaque fois une logique de der des der, c'est-à-dire c'est la dernière réforme pour sauver le système. Comme on parlait de la Première Guerre mondiale, ça sera bien sûr la dernière guerre. C'est parce qu'il est produit, comme vous le savez. Et à chaque fois, on voit ce sujet arriver dans un contexte où même les jeunes générations, on pense à la retraite, on pense à cet âge heureux, on pense à ce futur désirable avec l'espérance de vie qui augmente, avec en parallèle des questions de santé, d'accès aux soins, de dépendance. Et on voit une fois de plus que les problèmes ne sont pas résolus. Donc on met, si je puis dire, quelques centimes ou euros de plus dans cette machine de l'éclipse du politique. Ce n'est plus à l'échelle nationale que ça se passe pour changer la vie des Français.
Mais Julien Nenni, quand il dit, François Bayrou, qu'il y a une voie de passage et qu'il va tenter une voie de passage, c'est quoi cette voie de passage?
Alors, elle existe, mais elle est plus étroite que jamais. Vous vous souvenez, au moment de sa prise de fonction à Matignon, en début d'année, il avait parlé d'Himalaya, de difficultés face à lui. Bah, on est en plein dedans, on est en plein dans l'ascension du premier col de l'Himalaya. Et donc, ce chemin de crête, ce chemin de passage, comme vous dites, extrêmement étroit, bah, ça passe par les réunions de la dernière chance qui ont lieu aujourd'hui avec les partenaires sociaux, ceux qui étaient encore autour de la table du conclave. Il y a à 20h, là, dans une heure, moins d'une heure, une petite réunion, une dernière, avec le représentant des PME. À la fin de ce dernier round de négociations, François Bayrou espère pouvoir aboutir à un accord de la dernière chance. Mais même s'il n'aboutit pas au bout de la 19e, c'est la 19e réunion de négociations aujourd'hui, même si ça n'aboutit pas, il y a encore une toute petite possibilité, une toute petite voie de passage, ce serait de reprendre ce que techniquement ils appellent dans le conclave le relevé de conclusion. C'est-à-dire ce que le médiateur du conclave, certain Jean-Jacques Maret, qui est très inconnu du grand public, c'est celui qui a piloté un peu les débats en interne, il a relevé un petit peu tous les points potentiels d'accord pendant ce conclave. Alors, le MEDEF et la CFDT ne se sont pas mis d'accord précisément sur ce relevé de conclusion, mais pour autant, ça pourrait faire l'objet d'un texte transmis au Parlement, comme l'avait promis François Bayrou aux socialistes, notamment en début d'année. Et même sans accord des partenaires sociaux, ça pourrait quand même aboutir au Parlement à un vote. Ça permettrait de garder peut-être les socialistes du bout des doigts avec François Bayrou, et ça permettrait à François Bayrou de sauver la face. C'est un chemin de crête, il est extrêmement étroit, mais il existe au moment où on se parle.
Mais s'il y a un texte qui arrive devant le Parlement, aidez-moi à comprendre, François Fressoz, on vote sur le texte est uniquement ce texte, aussi baroque soit-il, effectivement, parce qu'on fait une espèce d'addition de ce sur quoi ils sont d'accord en mettant sous le tapis ce qui me semble assez compliqué.
Sur la pénibilité.
Ben voilà, la pénibilité, etc. Mais est-ce qu'on l'amende ce texte ou pas? Parce que si la question est oui, alors on est reparti comme en 40 et 62 ans, et etc.
Je ne crois pas trop à cette hypothèse. Je pense que s'il y a une avancée, ça sera peut-être intégré dans le PLFSS ou dans le projet de loi de finances, sécurité sociale et tout, mais voter un texte maintenant, alors que les trois quarts du Parlement vont vous dire « nous, on veut la remise en cause de la réforme », je ne vois pas comment ça peut aboutir. Non, ce qui est dommage, c'est qu'il y avait des vraies avancées, par exemple pour les mères de famille, qu'ils n'étaient pas loin d'un accord là-dessus, donc, et qu'il y avait des possibilités d'amélioration de la réforme. Mais bon, voilà.
Alors sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui et François Bayrou qui ne tient plus qu'à un fil, Frédéric Dabi, ne tient-il réellement qu'à un fil d'abord ou pas? Parce qu'on sait bien ce qui va se passer avec la motion de censure. Pour l'instant, le RN n'a pas dit qu'il la voterait, il attend plutôt le budget derrière.
Comment dire, il y a vraiment deux niveaux. Il y a le niveau de l'Assemblée nationale, où, il ne tient qu'à un fil. On se souvient de Michel Barnier, si toute la gauche vote la censure et si le RN finalement baisse le pouce, comme ça a été le cas en novembre dernier pour Michel Barnier, oui, sa vie ne tient qu'à un fil, sa vie ministérielle à l'hôtel Matignon. Il y a aussi le regard des Français où les choses ne sont pas meilleures, voire pire. L'IFOP, vous savez, on a le plus ancien baromètre de la Ve République avec le JDD. Dans l'histoire, si on remonte au couple de Gaulle-Debré, seul Alain Juppé et Edith Cresson on fait moins bien en termes de satisfait que François Bayrou. Ce ne sont que des sondages.
Mais est-ce que non-satisfaction, ça veut dire envie de changer ? C'est deux choses très différentes, non ?
Non, ça ne veut pas dire envie de changer, mais ce qui me frappe, c'est que les critiques, par exemple, pour Alain Juppé, il y a 30 ans, c'était des critiques politiques. Le non-respect des promesses de Jacques Chirac, candidat avec la fraction sociale. François Bayrou, dans la droite ligne de ce que je viens de vous dire sur l'équipe du politique, c'est une grille de lecture en termes d'inaction. Il ne fait rien. Il ne se passe rien. C'était la même chose d'ailleurs pour Michel Barnier, qui était sauvé par une image personnelle assez flamboyante. François Bayrou, en plus, est empoisonné par l'affaire Bétarame, qui réactive l'image d'un politicard, d'un politique d'avant. J'ai été frappé par un verbatim d'un électeur d'Emmanuel Macron qui dit « François Bayrou, depuis 30 ans, qu'est-ce qu'il a fait pour nous ?» Et cette crise du résultat est absolument délétère, puisque les Français ont vu que tout était bloqué et gelé. Donc de ce point de vue-là, du point de vue du rapport aux Français, c'est également très compliqué pour lui.
Est-ce qu'on peut se dire qu'il aurait pu faire plus ou pas, Julien Nenni par exemple, dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, dans le blocage, la difficulté parlementaire que l'on connaît, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est la situation qui fait que les choses sont quand même très très difficiles à bouger ?
Alors il faut effectivement remettre dans le contexte, la situation est quasi inextricable, elle est quasi impossible, Michel Barnier a payé pour voir, François Bayrou est peut-être un peu plus habile politiquement, il a aussi bénéficié des erreurs de Michel Barnier pour durer un petit peu plus longtemps, c'est un peu la spécialité du centriste hein, depuis le début de sa carrière, durer, acheter du temps, c'est un artiste de la politique de ce point de vue-là, François Bayrou, mais de fait sans aucune majorité absolue à l'Assemblée, sans aucune marge de manœuvre financière, avec un Emmanuel Macron qui ne pilote plus grand-chose puisqu'il se replie sur l'international, faute de pouvoir se représenter, et tellement affaibli politiquement par sa dissolution ratée de l'an dernier. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Il y a 40 milliards d'euros à trouver, personne n'est d'accord sur les solutions. Ils ont laissé 5 mois, même aux partenaires sociaux, pour tenter de ripolliner la réforme Borne sur les retraites. Ils n'ont pas été capables de se mettre d'accord. On est dans une impasse totale et finalement, ça donne raison en partie à Édouard Philippe, il y a quelques mois à Bordeaux, en meeting Horizon. Il avait dit, il va rien se passer pendant 2 ans. Ça avait beaucoup ulcéré Emmanuel Macron et François Bayrou. Il a peut-être un peu raison.
Il dit que rien de sérieux ne pourra être entrepris avant 2027. Il a raison, François Fressos. On sait qu'on est dans cette situation-là et c'est peut-être ce qui fera que, au final, il sauvera sa peau, François
Alors,
Bayrou.
Je vais prendre un peu le contre-pied de ce qui a été dit parce qu'il y a deux choses qui me frappent. Moi, je trouve que François Bayrou, il est arrivé au bout de son histoire politique, mais il reste d'une logique avec ses convictions qui me frappent, moi. C'est-à-dire, il pense que le pays doit faire des compromis, qu'il faut faire de la proportionnelle, le budget, il faut agir, mais il faut laisser mûrir. Et je pense qu'il est sur son cheminement. Et ce qui peut le servir, c'est que la situation est quand même grave sur le plan international. Et si jamais il saute, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est-à-dire que personne n'est capable de vous mettre le scénario en France. Est-ce qu'on ne va pas vers une crise financière majeure ? Est-ce qu'on ne perd pas les rênes ? Et donc, je pense qu'il n'est pas complètement cuit. Regardez ce qui va se passer sur les retraites. Il va y avoir une motion de censure de la gauche. Je ne pense pas que le RN va s'y associer, parce que le RN est en recherche de crédibilité aussi. Le budget... Qui a envie d'affronter le budget aujourd'hui ? Moi, je serai les autres, je le laisserai faire en criant, en disant ça va pas et tout, mais je suis pas sûre.
C'est le sens de la question,
bonne stratégie, c'est surtout dire, parce que on fiche tout en l'air.
C'est ça. Et surtout, qui aura envie de rentrer dans ce bourbier ?
Et voilà, exactement. Donc moi, je n'exclus pas que très impopulaire, très mal aimé, il arrive quand même à poursuivre son chemin, mais avec une dégradation de ce qu'a fait la politique française, c'est-à-dire cet amour de la politique. Ça, on voit bien que les gouvernants sont détestés et qu'il y a une dévitalisation. Mais sur le scénario catastrophe, il n'a plus les manettes, j'en suis pas si sûre que ça.
On reviendra sur ce que vous dites sur la situation internationale et ce qu'elle est aujourd'hui et en quoi effectivement l'implosion du gouvernement pourrait causer. Mais je voudrais qu'on retourne au standard quand même et on retourne sur les retraites avec vous, Régis. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Régis.
Merci, je vous remercie pour vos émissions, toujours bien judicieuses. Alors, moi je voudrais dire que comment peut-on faire pour garder un Premier ministre pour au moins 2 raisons. La première, c'est l'affaire Bétarame. Manifestement, il a manqué. Moi j'ai 2 filles, les filles, ça parle à leur papa. Donc sa fille de 14 ans qui a été violentée à l'époque, c'est obligatoire qu'elle ait parlé à son papa. Et son épouse qui travaillait à Bétarame, obligatoire qu'elle ait parlé à son mari. Donc là, il nous manque. Donc déjà, quelqu'un qui ment ne peut pas diriger la France. La deuxième raison, c'est les retraites. Alors en faisant vite, si on fait l'origine de M. Bayrou, en 2012, il a soutenu M. Hollande, homme de gauche. En 2017, il a soutenu M. Macron. qui était un hollandiste purement, vraiment. Et à l'époque, tout le monde pensait, on s'est trompé depuis, on s'est aperçu que c'était un homme de droite, mais à l'époque, M. Macron était présenté comme un homme de gauche. Et aujourd'hui, M. Bayrou voudrait nous faire avaler une réforme des retraites avec un départ à la retraite à 64 ans, ce que la gauche n'accepte absolument pas. Moi, je suis un homme de gauche, et ça, je n'accepte pas, vraiment pas. Mais il y a un autre problème, madame. Je vous remercie vraiment de m'avoir pris à l'antenne. Et ça, personne n'en parle.
Mais rapidement, s'il vous plaît, Régis.
Oui, je vous fais vite. Le problème, c'est le montant des retraites. Le problème, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, vous vous apercevez qu'il y a des gens, et j'en fais partie parce que je suis un jeune retraité, j'ai travaillé 183 trimestres dans ma vie, je touche 869 euros. Et pendant ce temps-là, M. Hollande touche 31 000 euros. Donc là, il y a un problème. Donc cette question-là doit être traitée, mais vraiment. Donc quand on a un premier ministre qui n'est pas capable de traiter l'âge, et qui n'est pas capable de traiter le montant, il ne peut pas rester à Matignon. Et ce que dit votre invité, j'écoute beaucoup, je fais très vite, alors c'est pas à elle que j'en veux, parce qu'elle fait une analyse. Mais c'est grave de dire, on va le garder parce qu'après tout, on n'a pas mis. Mais
Régis, vous parlez en dehors de votre téléphone et du coup, on vous entend pas. Vous êtes en train de bouger votre téléphone, mais on a entendu ce que vous nous dites. On a entendu, vous nous dites illement, vous nous dites les retraites, ce sera 64 ans, et vous nous parlez du montant aussi des retraites. Frédéric Dabi, monsieur le sondeur, est-ce que vous avez l'impression que Régis est au fond l'archétype aujourd'hui des gens qui sont dans ces fameux 77% qui disent François Bayrou, c'est non?
Clairement, oui. Et Régis, c'est très représentatif des raisons spontanément évoquées du mécontentement à l'égard du Premier ministre, Betarave. C'est une sorte de poison. Le point de départ et le péché originel, c'est le sentiment qu'il a menti, qu'il a dissimulé, qu'il a trompé sur un sujet qui touche tout le monde, hein, n'oublions pas, il vient pas comme ça. On a parlé du harcèlement, qui est devenu un sujet qui a marqué beaucoup les Français, MeToo, l'enfance violentée. Donc c'est vraiment un sujet, je rentre pas sur le fond, je vais pas le dire, terrible pour lui. Il a quand même réussi à atténuer un peu le mécontentement grâce à l'audition où les Français ont eu souvent le sentiment qu'il était tombé dans un piège et que c'était LFI, M. Vannier, qui voulait se payer le Premier ministre. Mais pour autant, le problème reste là, c'est-à-dire l'inaction. Le sentiment que il ne peut pas, il n'a pas les marges de manœuvre, mais la logique d'exonération qui a pu marcher à une époque pour Macron, Emmanuel Macron, pendant le Covid, pendant des crises, ne marche absolument pas pour lui. Et on a l'idée aussi, vous l'avez dit Julien, qu'il est là pour durer, il n'est pas là pour endurer. Il n'est pas là pour régler les problèmes, quand les Français voient des acteurs qui arrivent à régler les problèmes. Les chefs d'entreprise, les élus locaux, en l'occurrence les maires. Donc c'est quand même un cocktail que j'ai rarement vu pour un chef de gouvernement.
Et alors néanmoins, et pour revenir à ce que disait Françoise, effectivement, sur qui voudrait rentrer dans ce bourbier, si je puis dire, on a Patrick qui dit ceci, je suis de gauche, mais à mon sens, faire tomber le gouvernement dans les circonstances actuelles me semble suicidaire. On a Anne qui nous dit, pour moi, une seule question mérite d'être posée, qu'apporterait la censure à la France ?
Je pense que ce sera un moment compliqué. Parce qu'on voit bien que ce dont on souffre aujourd'hui, c'est une absence de majorité, une pré-difficulté. La remise en jeu des partenaires sociaux, je trouvais ça très intéressant, parce qu'ils avaient été un peu boycottés par Emmanuel Macron, qui disait « je décide de tout ». Et on voit qu'ils peinent aussi à s'entendre, parce qu'il y a des vrais enjeux. C'est-à-dire que l'entreprise ne veut pas payer. L'entreprise dit « nous, on est confrontés à un bouleversement mondial », ce qui est vrai d'ailleurs, et donc, on n'a pas les moyens de... on a des impôts au taquet. Et donc, le pays est quand même globalement confronté à comment remettre d'équerre les comptes publics dans un dissensus absolu. Et la période, pour moi, est dangereuse parce qu'on voit bien que tout se durcit sur la scène internationale, qu'il y a un vrai risque de marginalisation pour nous, qu'il y a sans doute un risque aussi sur les finances publiques, c'est-à-dire qu'à un moment, si on n'arrive pas à être plus sérieux, on va être rattrapé par la patrouille. Et donc, je pense que c'est ce moment-là qu'on vit et qui est extrêmement difficile à régler, parce que il n'y a pas d'acteurs qui sont suffisamment la confiance de l'opinion pour agir.
Et c'est pour ça que j'allais poser la question à l'envers, Julien Nenni, au fond. Est-ce que le PS... ou le RN, ou les deux, peuvent se payer le luxe, au fond, de recréer une période d'instabilité comme celle qu'on a déjà traversée à deux reprises.
Oui, c'est la question essentielle. C'est ce qui avait beaucoup fait hésiter déjà le Rassemblement National en décembre dernier, au moment de la censure de Michel Barnier. Ils avaient pris un gros risque vis-à-vis de leur électorat. Vous savez, ils essaient de se respectabiliser, de s'institutionnaliser et créer du chaos politique, créer une crise politique nationale majeure en censurant un gouvernement. Ben, ça déstabilise forcément. D'ailleurs, c'est intéressant parce que cet argument du contexte international, il est repris aujourd'hui hein, et par Emmanuel Macron depuis Oslo et ce matin à Matignon, dès 7h du matin, par François Bayrou. Ils disent, au fond, ils jouent l'opinion. Ils disent, mais est-ce que vraiment, au moment où le Moyen-Orient et le Proche-Orient s'embrasent, au moment où la guerre en Ukraine s'enlise, etc., est-ce qu'on a envie de créer une crise politique nationale qui apparaîtrait complètement déconnectée des grands enjeux géostratégiques ? C'est un argument qui, me semble-t-il, peut porter dans l'opinion. D'ailleurs, je crois que c'est Patrick, votre auditeur en ligne, qui se disait électeur de gauche, je crois, qui lui-même se demande si c'est une bonne idée, est-ce que ça apporterait de censurer le gouvernement. C'est effectivement l'un des aspects qui peut sauver encore François Bayrou dans cette équation. Et puis j'ajouterais une chose, c'est que finalement, le PS, en déposant sa motion de censure dès ce soir, fait un cadeau inespéré au RN aussi. Mmh. Parce que comme sous Michel Barnier au dernier moment, le RN se retrouve avec sa position favorite, celle de l'arbitre. Mmh. C'est eux qui ont désormais droit de vie ou de mort sur le gouvernement de François Bayrou. Ils peuvent lever le pouce, baisser le pouce, en fonction de leur intérêt stratégique du moment. Et ça, c'est un cadeau inespéré du PS au RN.
Et d'ailleurs, on a entendu le RN être assez catégorique pour dire non, nous, c'est le budget plutôt qui fera l'objet de notre censure. Et on a entendu Jordan Bardella juste après, c'était dans le 19h, qui pesait les choses de manière un peu différente pour montrer à quel point, effectivement, ils peuvent être là-dessus, encore une fois, les faiseurs de rois. On a eu un Patrick, en voilà un autre. Bonsoir Patrick.
Oui, bonsoir. On vous écoute. Inter, bonsoir à tous. Oui, alors moi je voulais dire que je pense que même si Bayrou est impopulaire, il risque de durer jusqu'au bout, je veux dire jusqu'au présidentiel, parce qu'en fait, Marine Le Pen, elle est frappée d'inéligibilité. Et donc, là, on arrive au mois de juillet, c'est-à-dire que si on devait censurer le gouvernement, le président pourrait très bien dissoudre l'Assemblée nationale et Marine Le Pen ne pourrait pas se représenter. Ça veut dire qu'elle ne pourrait plus être présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Et je pense que c'est un poste qu'elle affectionne particulièrement. Et si elle n'est plus rien, en fait, elle aurait moins d'aura. Et je pense que pour préparer une campagne politique, c'est plutôt déconseillé. Donc, à mon avis, Bayrou peut être serein, il restera au moins jusqu'à l'été 2026, là où il y aura l'appel hein, du jugement pour Marine Le Pen, et probablement jusqu'en 2027.
Merci pour votre remarque. Voilà, les paris sont pris. Patrick, qu'est-ce que vous dites de ça, Frédéric Dabi?
Oui, ce que dit Patrick est tout à fait pertinent, ça se tient. S'il y a une dissolution, le président peut dissoudre à partir, alors certains disent à partir du soir du premier tour, anniversaire du 30 juin, d'autres à partir du 7
début,
juillet.
Ouais, début juillet, c'est
donc,
ça.
Du 7 au soir, c'est donc c'est-à-dire des législatives anticipées. Effectivement, Marine Le Pen disparaîtra du champ parlementaire. Elle gardera quand même son magistère. Et à tes intérêts, enfin, parler de sérénité quand on a une chambre pareille et une incapacité d'agir, je n'irai pas jusque-là. Mais effectivement, il a peut-être des circonstances qui lui sont favorables. Il y a aussi la proximité des élections municipales qui sont le dernier scrutin avant la présidentielle, même si c'est le scrutin, on n'est pas sûr que ce sera le prochain scrutin, quid d'un référendum et quid, comme ça a été dit, d'une dissolution de l'Assemblée nationale.
Alors bah justement, puisque vous parlez de référendum, on va y aller tout de suite. Voici Luc, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
De Strasbourg. Une simple remarque, l'Assemblée nationale étant plus ou moins bloquée du fait des divisions, François Bayrou, par ruissellement, comme diraient certains, est plus ou moins bloqué aussi. Est-ce qu'il n'est effectivement pas temps de faire un référendum? Je suis bien conscient qu'on ne peut pas faire des référendums sur certains sujets du fait du blocage de la Constitution, mais il n'en demeure pas moins qu'un référendum sur un sujet quelconque pourrait redonner quand même un coup de boost, ne serait-ce que par la participation. Sur un référendum où il y aurait une énorme participation de la population française, ça obligerait un peu les politiques à dire « bon, là, ce coup-ci, il faut qu'on fasse quelque chose ».
Françoise Fressoz, là, ce coup-ci,
c'est assez dubitatif sur le référendum, parce que, d'abord, vous n'êtes pas sûr qu'il y ait une participation aussi forte et tout. Deuxièmement, je trouve que le fond de l'air est tellement virulent qu'au fond, il peut y avoir des campagnes qui se dévient complètement et qu'on ne réponde pas du tout à la question posée. Et je pense que, enfin, je ne sais pas, vu le contexte, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne arme en ce moment.
Je voudrais revenir à ce que disait notre auditeur précédent dans l'hypothèse d'une dissolution. On le voit effectivement pas du tout venir, mais je me demandais s'il y avait censure, même si c'est pas maintenant, mais même si c'est plus tard, est-ce que on peut imaginer, puisqu'il y a recensure et que ça va être effectivement compliqué, on refait tapis de la part du président, disant bon bah écoutez, puisqu'on a censuré à nouveau le gouvernement, c'est le deuxième, donc on remet les cartes sur la table.
Alors pour la première fois il y a quelques semaines, c'était juste à la fin du sommet sur les océans à Nice, Emmanuel Macron a publiquement brandi cette menace. Mmh. En effet, en conférence de presse, il a dit moi mon intention, ce n'est pas de dissoudre à nouveau, voilà, j'en ai pas envie. Maintenant, attention, si les oppositions sont irresponsables, je crois que c'est comme ça qu'il l'avait dit, j'aurai tous les outils de la Constitution à ma main, en gros. C'est une menace de dissolution à nouveau. Et il sait très bien que la plupart des partis, même tous les partis, n'ont pas du tout intérêt à une nouvelle dissolution. On a parlé du RN, l'auditeur précédent a raison, Marine Le Pen ne pourrait pas se représenter, ce serait un désavantage pour elle de repartir en campagne législative pour le Rassemblement National. Les LR n'y ont pas intérêt non plus, ils sont en train de se reconstruire autour de Bruno Retailleau, ils ont engrangé quelques victoires dans des législatives partielles, mais c'est trop tôt pour eux pour repartir en campagne, ils ne sont pas du tout certains de revenir avec autant de députés, et on pourrait poursuivre le même raisonnement pour tous les groupes présents à l'Assemblée. Donc finalement, tout le monde se tient d'une certaine façon, et Emmanuel Macron a beau jeu de brandir cette menace, il sait très bien qu'il les tient tous, entre guillemets, avec cette arme constitutionnelle massive, et il y a finalement assez peu de chances qu'il la brandisse à nouveau.
Oui, on a fait une enquête pour TF1, pour l'anniversaire TF1-LCI, pour l'anniversaire de la dissolution, le souhait de voir dissoudre l'Assemblée, donc revenir aux urnes, est de 40% chez les Français, majoritaire chez les électeurs LFI, RN. Il ne faut pas oublier qu'une des motivations des électeurs RN, c'est l'alternative, c'est le coup de balai, c'est mettre au pouvoir ce qu'on n'a jamais essayé, et également chez les électeurs LFI. Et le pronostic, c'est-à-dire je peux souhaiter quelque chose, mais est-ce que ça va se produire, ce n'est que 30%. Mmh. Donc pour l'instant, les Français ne sont pas dans cette situation, mais personne n'allait venir également le 9 juin 2024. Mais ils ne sont pas dans la situation d'un retour aux urnes pour les élections, pour des élections législatives.
Et en même temps, Françoise Fressos, on entend bien certains électeurs qui veulent effectivement remettre les choses sur le tapis, mais on parlait d'immobilisme tout à l'heure s'agissant de François Bayrou. L'immobilisme, est-ce que ce n'est pas aussi le nôtre, les électeurs? Donc si on votait demain, de toute façon, il n'est pas du tout sûr qu'on aurait une assemblée qui ne ressemblerait pas exactement à celle qu'on a aujourd'hui.
Alors ça, c'est ce que tout le monde dit, c'est qu'il est très probable qu'on arrive aux mêmes situations blocage, vu l'état de polarité, de polarisation actuelle. Par ailleurs, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on reproche beaucoup l'immobilisme de François Bayrou, mais attendez le 14 juillet. Là, je pense qu'il y aura le plan de redressement des finances publiques sur 3 ans, et ça ne sera pas de l'immobilisme. Hein. Donc, je pense que c'est ce moment-là qui va être très important, c'est comment se positionne le reste des politiques. En gros, c'est il va annoncer, si vous voulez, des économies budgétaire très importante,
violentes, ouais.
Et après il va laisser l'été au parti pour dire écoutez, si vous voulez corriger ma copie, faites des propositions, mais financez-les. Et donc là, ça va être quand même un exercice de responsabilité, et on va voir qui joue le chaos, qui joue pas le chaos. Mais je pense qu'on est quand même dans une situation très très incertaine et très compliquée, parce que sur la scène internationale, on voit bien qu'on est en train de perdre les manettes, et l'Europe est en train de perdre les manettes, que économiquement la croissance n'est pas bonne, et qu'on vit aujourd'hui un moment très très périlleux, très compliqué. Donc est-ce qu'il y a une sorte de ressaisissement en se disant bon bah on va peut-être tenir jusqu'en 2027, ou est-ce qu'on va vers le chaos? Moi je suis plutôt sur le test de la responsabilité, parce que je pense que les partis ont tous beaucoup à perdre à jouer le chaos.
Moi, je voudrais savoir en quoi, à votre avis, la situation internationale pourrait être impactée si, d'aventure, on retournait dans un moment de difficulté, en tout cas déstabilisation, j'en sais rien, mais en tout cas de difficulté chez nous. Est-ce que vraiment ça joue, ça, dans l'esprit des gens, surtout?
Alors, clairement, ça ne jouait pas par le passé, ça joue énormément. Hein. Une des grandes mutations d'opinion publique depuis, on va dire, 5-10 ans, c'est un intérêt croissant pour les questions internationales. Avant, c'était réservé à des poches particulières de la population, les personnes âgées, les personnes diplômées, ceux qui avaient un capital culturel fort. Le reste, il y avait une sorte d'indifférence. Dans les campagnes présidentielles, on parlait très peu d'international. C'était au contraire le pays qui s'arrêtait. Il y avait un imaginaire où on débattait sur les grands sujets. Maintenant, je vois le niveau d'intérêt des Français qui est massif, parce que il y a une logique d'opinion qui a été enclenchée. Les Français nous le disent, hein, ce qui se passe dans le bureau ovale, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe même au fin fond de la forêt amazonienne, ça peut avoir un impact sur ma vie, et donc sur ma vie quotidienne. Et les gens ont en tête l'inflation, la crise de l'énergie. Donc effectivement, ouvrir encore le barillet et jouer à la roulette russe dans un contexte pareil d'inquiétude massive, hein, quand on interroge les Français sur un risque de guerre mondiale, on a un tiers des gens qui disent oui.
C'est surtout là-dessus sur en fait que ça joue, reste... non, c'est surtout cette inquiétude-là.
Oui, tout à fait, cette inquiétude d'un embrasement, et puis l'idée de l'absence de maîtrise, vous l'avez dit, hein, l'absence de l'Europe, la France qui recule également, et tout ça, effectivement, ça plaide pour essayer de ne pas revenir, se remettre sous tension, même si clairement, hein, l'éclipse du politique, c'est les Français qui nous disent « il ne se passe plus rien au national ». Est-ce qu'une dissolution améliore les choses ? Sans doute pas.
Est-ce qu'il s'est refait une santé réellement, Emmanuel Macron, sur les crises internationales ou pas du tout ? Est-ce que ça se voit, ça se voit dans les chiffres,
oui,
dans les sondages,
ça s'est vu, ça s'est vu à court terme, au moment des derniers soubresauts de la guerre en Ukraine. Là, il y a une nouvelle dimension moins bonne pour lui, c'est que ça se joue pas du tout de son côté. Les crises internationales, ça lui permet d'enclencher une logique de distinction. C'est tous les Français qui nous disent « il m'agace, mais c'est le seul qui peut parler à Poutine, c'est le seul qui peut avoir des initiatives ». Là, on voit très bien que, vous l'avez dit, l'Europe est plutôt absente. Ça joue dans un jeu à trois, Trump, Israël, Iran, s'agissant de la crise dernière. Et effectivement, il apparaît comme plus spectateur qu'acteur. Donc même là, c'est compliqué pour lui.
On a François qui nous dit « mais moi, ce qui me gêne, c'est l'argument qui dit « on ne peut pas se payer le luxe de faire tomber un gouvernement ». Or, c'est ça la démocratie. Donc si un gouvernement tombe, eh ben, il tombe. Et on ne peut pas le garder juste parce qu'on a peur d'un changement de gouvernement.
Oui, mais la démocratie, c'est... vous arrivez quand même, une fois que vous avez fait tomber le gouvernement, vous essayez d'installer à la place un autre gouvernement qui fera mieux. Et je trouve que là, on est quand même... quand vous regardez les hypothèse possible, c'est très compliqué parce qu'on est quand même dans une situation de blocage. En fait, moi, ce qui me frappe, c'est quand même cette chose-là, c'est que on a fait des critiques sur la Ve République en disant c'est un régime autoritaire, il faut développer la culture du compromis. Ça fait un an qu'on est dans une situation où on devrait avoir une culture du compromis qui se développe et on est dans un blocage absolu. Et je trouve que là, il y a quand même une démission collective, une impossibilité de se saisir des problèmes qui est un problème collectif pour moi, plus qu'un problème de la scène politique. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est enrayé dans notre capacité à affronter le réel et à essayer de le résoudre.
Et quand vous dites collectif, donc c'est la faute des politiques, mais aussi la nôtre, nous les électeurs et nous qui... vivons cette situation ou pas ?
Je pense qu'on pourrait arriver à essayer de construire des choses un peu positives, un peu constructives, y compris sur la retraite. C'est-à-dire, s'il y avait des choses à corriger sur la réforme, d'accord, mais en même temps, estimer qu'au fond, on pourra toujours continuer sans travailler plus ou plus longtemps, moi je pense que c'est irréel, parce que vous avez une réalité démographique qui fait qu'on n'y arrivera pas. Donc on a une partie des politiques qui se berce d'illusions et on n'arrive pas à avancer, et je pense que c'est très dommageable pour le pays.
Là-dessus, je me demandais, peut-être que vous voyez dans les chiffres, Frédéric Dabi, parce que justement sur les 64 ans, est-ce que c'est pas ce qu'on a vu aussi finalement pendant le conclave, une fois qu'effectivement la CGT et FO sont partis, mais au fond dans ceux qui restaient, donc la CFDT, la CFE-GCC, etc. C'est comme si cette histoire de 64 ans avait de toute façon été avalée. Et que donc on considérait que les Français l'avaient avalée, et au-delà des discours qu'il peut y avoir. Est-ce qu'on l'a avalée ou pas?
Non, je ne pense pas que les Français l'ont avalée.
Les électeurs de gauche, certainement.
Voilà, ils n'ont pas été pris en traître. Je rappellerai qu'Emmanuel Macron, dans son programme présidentiel, très percuté par le Covid et la guerre en Ukraine, la principale mesure mémorise était la retraite à 65 ans. C'était un retour complet sur la réforme.
Alors, avaler, ça ne veut pas dire pas avaler de travers, par ailleurs, mais de toute façon, avaler.
Il y a une vraie différence, je faisais référence tout à l'heure à la réforme de 2010, où le passage de 60 à 62 ans avait été mollement soutenu, mais par un Français sur deux, avalé, parce qu'il y avait une vraie finalité de la réforme, qui était sauver le système. On cite souvent le discours churchillien sur du sort de la soeur et des larmes, c'est accepté s'il y a une finalité. Le drame de cette réforme, c'est qu'il n'y a jamais eu de finalité, ou en tout cas une finalité qui a changé. On a parlé de sauver le système, on a parlé de trouver des marges de manœuvre en matière de santé et d'éducation, et le verre était dans le fruit. Maintenant, c'est vrai, du côté des électeurs de gauche, clairement, c'est un marqueur très fort, et c'est vrai que, dans le cadre de la pré-campagne présidentielle, beaucoup de Français nous disent, oui, ça sera tranché, cette question sera un vrai marqueur lors de la campagne, pas avant, parce que c'est en ce moment, du fait du blocage, insolutionnable, on va dire de grossièreté.
Et nos auditeurs y retournent forcément sur WhatsApp, je lis ceci, mais enfin on a oublié que les derniers résultats des élections avaient mis la gauche en premier. Emmanuel Macron s'est entêté à vouloir mettre un Premier ministre de droite. Beaucoup de Français se sentent floués et n'attendent rien du coup du gouvernement actuel. Cette discussion-là, Françoise, qu'on le veuille ou non, on l'a depuis une année entière et on l'aura jusqu'en 2027.
Bien sûr. La difficulté, c'est que il aurait peut-être dû effectivement nommer un Premier ministre de gauche qui se serait fait censurer immédiatement et serait sans doute levé l'hypothèque. Mais il y a effectivement il y a ce ressentiment qui est très fort. Hein. Je justifie pas du tout l'attitude d'Emmanuel Macron. Je dis juste que on est rentrer là dans ce qu'on appelle l'ère du tripartite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de majorité absolue, et pour l'intérêt du pays, il y aurait quand même possibilité de construire des compromis, et je pense que personne n'y met vraiment du sien. Et je le regrette.
Il y a trois choses qui mettent François Bayrou en difficulté. On a parlé de son impopularité, on a parlé de ce conclave, on a peut-être passé un peu vite sur son isolement. Qui aujourd'hui, Julien Nenni, soutient François Bayrou? On a l'impression qu'il a été lâché effectivement par LR, il a été lâché en race campagne par Édouard Philippe et Horizon. Donc le bloc central, il ne l'a pas tenu. En fait, qui aujourd'hui soutient François Bayrou?
Oui, c'est une bonne question. Son entourage est très maigre, en fait, hein, à François Bayrou. Il a deux lieutenants principaux qui assurent ses intérêts et qui font sa promotion, entre guillemets, politique. C'est Marc Fesneau, le patron du groupe Modem à l'Assemblée, et Patrick Mignola, le ministre des Relations avec le Parlement. Mais c'est à peu près tout, si on schématise, entre guillemets. Il y avait ce fameux socle commun, comme l'appelait Michel Barnier, qui a vaguement vécu pendant le bail du Savoyard à Matignon. Vous savez, c'était le Modem, Renaissance, LR et Horizon. Bon, ça a complètement explosé en vol avec notamment l'attitude de Laurent Wauquiez. On ne va pas rentrer dans les détails et refaire l'histoire. Mais en fait, Frédéric a tout dit il y a quelques minutes. On est rentré en pré-campagne présidentielle d'ores et déjà. Et c'est ça qui commande tout. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Édouard Philippe n'a pas trop intérêt à rester totalement arrimé à Emmanuel Macron. Il va falloir qu'il se différencie pour qu'il ne soit pas totalement associé à lui et qu'il porte une candidature de rupture comme Nicolas Sarkozy avait pu le faire avec Jacques Chirac en 2007. Même raisonnement pour Gabriel Attal, en froid total avec le chef de l'État, qui lui aussi a tout intérêt, bien sûr, plus que jamais, qui lui aussi a tout intérêt à se différencier. Même chose pour Bruno Retailleau, qui n'a jamais été un macroniste et qui n'a pas l'intention de le devenir s'il veut être candidat crédible à la prochaine présidentielle. Bref, tout le monde est dans les starting blocks pour la prochaine présidentielle. Personne n'a intérêt à sauver le soldat Macron, ni sauver le soldat Bayrou, entre guillemets. Chacun dans son camp, chacun est prêt pour le grand combat de 2027. Et c'est ça qui contribue aussi au blocage actuel.
C'est ça que ça veut dire aussi, Frédéric Dabi, on a l'impression que tout le monde est en train de le regarder. Il est tout seul sur le Titanic, François Bayrou, et tout le monde regarde et lui fait coucou, mais personne n'ira lui tendre la main.
Oui, est-ce que François Bayrou a renoncé à une ambition présidentielle? On parle d'un triple candidat qui a failli même être un quadruple candidat en 2017.
On nous dit qu'il a renoncé à rien.
Hein. L'avenir le dira. Alors, dans ce que vous dites, je rajouterais Gérald Darmanin qui a une position un peu particulière. Il est très différenciant en termes de parcours, de trajectoire, d'image dans l'opinion du président Macron, mais lui n'a jamais véritablement rompu et joue la carte de la loyauté. Lui aussi, c'est quelqu'un qui pourrait compter.
Écoutez,
je nuance juste. Dernier mot, vous dire que je pense que personne n'a intérêt non plus à jouer la crise totale. C'est-à-dire, ils mettent Bayrou sous pression, ils ne le soutiennent pas, mais le premier qui appuie sur le bouton et qui le fait chuter, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas le scénario catastrophe qui peut se produire derrière.
Écoutez, à suivre. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir. Je vous remercie chaleureusement tous les trois et vous tous qui nous avez appelés. Comme d'habitude, je voudrais finir avec ce message de Pascal. Il me dit ceci. Chaque jour, j'entends le « ou pas » de Madame Sintès, encore gagné. Eh bien, écoutez, peut-être que demain, je le redirai,